Au poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur auposte.fr.
Amis du café, amis des sites mis en ligne hier, auposte.media, notre nouveau site, amis du militantisme, de l'activisme, de l'engagement. Bonjour. Nous sommes un petit peu fatigués avec l'équipe car nous avons fêté hier nos 5 ans de militantisme, 5 ans de folie. 5 ans de burn-out militant. Non, pas vraiment. Bonjour les invités.
Bonjour.
Hélène Balazar, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de Lyon.
Tout à fait, de Villeurbanne pour être précis.
De Villeurbanne. Comment ça va à Lyon?
C'est un peu chaud en ce moment, mais j'étais en vacances, donc j'avais pas hâte de rentrer.
Ah, c'est pas vous qui avez manifesté samedi alors?
Non, je suis rentrée que dimanche. Ouais,
très bien, on vous remercie, vous pouvez rester. Quant à Monsieur Simon, alors là, il y a quelque chose que je veux savoir tout de suite. On a dû vous la demander, mais là, on est obligé. Votre nom de famille, c'est Cotin Marx.
Oui, que veux-tu savoir?
Bah, s'il y a un rapport.
Bah, je vous laisse choisir, hein. Mais il y a plusieurs Marx qui sont connus. Il y a Thierry Marx, il y a les Marx Brothers, et puis il y a Karl Marx.
Ouais.
On a le choix, quoi. Mais pour l'affiliation, je vous laisse le choix.
Vous voulez pas dire?
Si, je peux dire, mais Marx, non, c'est un nom juif allemand. Et du coup...
D'où le livre La question juive de Karl Marx, ou pas?
Je sais pas, mais en tout cas... Et du coup, moi, je suis pas un descendant de Marx, parce que Marx, comme vous le savez très bien, n'a pas eu de garçon, il a eu que des filles. Et du coup, son nom s'est perdu, entre guillemets.
Très bien, très bien. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes venu pour votre livre, qui a une couleur punk. Vous le saviez, ça?
Oui, c'est rose, c'est la couleur du soin. Mais c'est un rose fuchsia.
C'est ça. C'est
la couleur de la fête aussi.
C'est vraiment la couleur du punk, hein, des Sex Pistols. Hein, aussi. Il y avait même un label qui s'appelait New Rose. Donc déjà, quand j'ai reçu ça, je me dis, ces gens ont du goût. Alors, je vais essayer de retrouver... je suis en train de le mettre mal à l'aise. Non, je vous ai mis mal à l'aise?
Non, pas du tout.
Ah bon, vous voyez, le chat est dur. Non seulement, justement, comme le chat, les temps sont durs, mais ils sont épuisants. Pas une asso, pas un collectif, pas une orga n'est épargné. Le burn-out n'est plus réservé au monde du travail. Alors, comment se protéger? Protéger les autres? Comment faire en sorte que celles et ceux qui s'engagent continuent à tenter de changer le monde sans s'esquinter la santé? Comment éviter la surchauffe pour en causer? On vous reçoit donc tous les deux. Pouvez-vous décliner vos, non pas vos identités, ça c'est fait, mais vos lieux de travail, vos occupations, quand vous n'êtes pas en vacances par exemple?
Eh bien moi je suis chargée de recherche en sciences politiques dans un laboratoire lyonnais-stéphanois qui s'appelle Environnement Ville Société et qui a 9... tutelle, et donc moi je suis employée à l'ENTPE, qui est l'école de l'aménagement durable des territoires.
Je suis maître de conférence au CNAM, hein, c'est le Conservatoire National des Arts et Métiers. Et...
Voilà, école d'ingénieur.
Et vous Simon?
Eh ben, je dirige le Centre d'économie sociale et solidaire, donc en gros je forme des dirigeants de l'ESS, voilà, donc à être des bons dirigeants. Puis aussi peut-être qu'on peut décliner notre identité, c'est-à-dire qu'on a tous les deux beaucoup milité. Moi, dans des collectifs pour le droit au logement, contre la précarité, puis du community organizing aussi. Mmh. Puis après, bon, d'autres choses comme des parents d'élèves, des syndicats. Voilà. Donc, on a des longs parcours militants.
Moi aussi, dans des assos autour du community organizing, j'ai fait ma thèse en étant bénévole dans une organisation à Londres qui fait du community organizing. Et j'ai continué après à militer dans différentes assos françaises autour de ces sujets de mobilisation.
Alors, je n'ai pas la page en tête, mais vous définissez le community managing. c'est quoi?
Alors, c'est différent du community managing, justement. Community manager, là, c'est... Je ne sais pas.
C'est Eurial.
Voilà, c'est Eurial, le
community manager. Qui ne supporte pas les mots en anglais, c'est pour ça que je vous pose la question.
Et effectivement, on a du mal à traduire ce mot en français parce que community et organizing, enfin community se traduit très mal en français. Les Québécois parlent d'organisation communautaire.
Voilà, c'est
donc
ça.
Donc on voit bien que quand on dit communautaire en français, ça fait hérisser les poils de pas mal de monde. Et community, ça veut dire quartier souvent en fait en anglais. Donc l'organisation des quartiers, voilà, on pourrait traduire ça comme ça.
Alors votre ouvrage est très efficace par, si je puis dire, sa simplicité en fait. C'est-à-dire que vous radiographiez tous les problèmes que peuvent rencontrer les associations, etc. Et surtout, comment les unes et les autres réagissent, s'organisent, ripostent à leur propre penchant. C'est une forme de guide, finalement. En tout cas, moi, je l'ai lu comme ça. Est-ce que c'est une bonne lecture ou pas ?
Oui, on se disait, bon, on ne veut pas non plus faire un manuel parce qu'il n'y a pas une solution, il n'y a pas de baguette magique. Donc voilà, il n'y a pas une marche à suivre unique et identique pour tout le monde. Mais quand même, l'idée, c'était de recueillir la parole de militants qui ont trouvé des solutions à ce problème de l'épuisement. Des solutions, qu'elles soient individuelles, collectives, vers quelle société il faut aller, du coup, comment lutter pour aller vers cette société-là, quoi.
Oui, clairement, c'est dans le livre, on essaie de partager la culture militante, de la faire circuler, parce qu'il y a plein de choses qui sont déjà faites aujourd'hui hein, pour lutter contre l'épuisement militant. Et du coup, ça me semblait important de le partager, tout simplement parce qu'on a besoin des militants pour changer le monde, hein, et le monde a besoin d'être changé. Donc du coup, on voulait transmettre ces idées-là.
Combien sommes-nous dans les associations, c'est indiqué page 9, c'est pour savoir si vous vous souvenez, en France, combien de millions de personnes ?
Oui, alors, ça, combien de personnes font du bénévolat dans les associations ? On dit qu'il y a 22 millions de personnes qui font des interventions dans les associations. Et en France, on a une dizaine de millions de personnes qui sont des bénévoles actifs, c'est-à-dire qui se mobilisent tous les mois, voire toutes les semaines. Quoi.
Mais 22 millions de personnes, de bénévoles, que compte la France ? En fait, vous le représentez, vous le rapportez à la population âgée de 18 ans et plus, ça fait 43%. C'est quand même énorme.
Oui, il y a beaucoup de monde. Alors, sauf que là, on parle de bénévolat, hein, on ne parle pas de militant. Hein. Un militant, c'est quelqu'un qui va défendre une idée politique. Un bénévole, c'est quelqu'un qui va s'engager gratuitement, sans contrepartie, hein, pour une cause. Et cette cause, elle peut être... Enfin, il y a plein de causes différentes. Ça peut être s'engager dans un club de sport, dans une association culturelle, dans la solidarité, à la Croix-Rouge ou au Resto du Cœur. Voilà, il y a une très grande diversité de lieux d'engagement et de bénévolat.
Et le livre s'adresse pas qu'aux militants, contrairement à ce que le titre laisse entrevoir, mais il s'adresse bien aux bénévolats pour des causes solidaires, justes, d'organisation de la vie de la collectivité. On essaye de pas s'adresser aux militants qui prônent la haine et l'entre-soi.
Oui, non, clairement, c'est au début du livre, on avait mis un petit paragraphe pour dire que le livre s'adressait qu'aux progressistes. Bon, et puis finalement, on l'a retiré parce que ça nous semble tellement évident qu'on
ah oui.
l'a pas laissé.
Ah oui, vraiment, ce serait... Voilà. Question marxiste, avant d'attaquer le cœur de votre bouquin. François Ruffin était venu il y a quelques temps. On avait fait un débat avec lui, Olivier Besancenot et Lucie Casté. Et il avait expliqué que pour lui, sortir du capitalisme, ça pouvait passer par le bénévolat, par les associations. Il disait, finalement, les gens qui s'engagent, en dehors de la question salariale, en fait, sortent du capitalisme. Là-dessus, le chat avait été en partie vent debout en expliquant qu'en réalité, il y avait des associations qui exploitaient autant ses membres que des entreprises exploitent ses salariés. Et donc, il y avait eu un débat. Et moi, j'aimerais connaître, surtout si vous travaillez dans l'économie sociale et solidaire, qui était également accusé un peu de cette chose-là, qui est de dire, finalement, on fait de l'argent sur le social. Qu'est-ce que vous pensez de ces questions-là ?
Je vois qu'il y a un peu ce débat qui commence dans le chat aussi, en disant tout ce travail gratuit pour pallier je sais pas d'ailleurs, c'est pas écrit. Le désengagement de l'État. Il y a un peu des deux, en fait. Effectivement, quand on regarde le monde associatif, il y a une partie des associations de plus en plus qui va avoir des missions de service public, des délégations de service public. Et là, ça, c'est une des causes, en fait, du burn-out militant parce que, par exemple, un exemple qui est donné Régulièrement, c'est les collectifs féministes qui, depuis que ça a été la grande cause du quinquennat de Macron, il y a eu de plus en plus d'appels à des numéros qui avaient été du coup rendus publics et publicisés. Sauf que derrière, c'est pas un service public, c'est des associations qui gèrent et c'est des bénévoles qui ont reçu encore plus d'appels qu'avant. Alors ça, c'est une bonne chose que les femmes se mobilisent contre les violences qu'elles subissent. Mais derrière, il n'y a pas les moyens. Et donc, beaucoup de burn-out au sein de ces associations. Donc là, on voit bien qu'effectivement, ce désengagement de l'État, c'est une des causes du burn-out militant. Mais par ailleurs, il y a aussi des associations qui construisent effectivement... On fabrique des communs. Et contre-modèle sociétal où on sort de la marchandisation de tout et du coup on préfigure potentiellement effectivement un autre modèle sociétal. Le problème c'est que dans le monde tel qu'il est, des fois il faut quand même composer avec le système, comment il s'organise, et c'est pas évident. Effectivement, l'économie de la société est pas pensée pour qu'on puisse passer beaucoup de temps en tant que bénévole, sauf à la retraite. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup de retraités dans les bénévoles.
Absolument. Simon ?
Bah oui, non, c'était hyper complet ce que tu as fait comme réponse. Oui, enfin, le monde associatif, c'est les deux à la fois, quoi. C'est un endroit, c'est une économie acapitaliste, c'est une économie du don, voilà, où on n'est pas dans un monde marchand. Hein. Enfin, quand on a des échanges entre bénévoles et tout, ça se fait en dehors de... Il n'y a pas forcément d'argent, c'est de la solidarité, c'est du don. Et en même temps, on voit bien qu'en effet, hein, comme vient de le dire Hélène, c'est-à-dire que les pouvoirs publics façonnent l'engagement des associations et des bénévoles. Et ça se voit bien aussi dans tout ce qui va être l'aide aux migrants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, normalement, tout le monde a le droit à un hébergement et à la solidarité. Sauf qu'on voit bien que l'État n'y met pas les moyens. Et du coup, c'est des bénévoles qui vont s'engager hein, pour les personnes migrantes et qui vont aussi s'épuiser. Voilà. Et clairement, c'est parce qu'il y a une défaillance de l'État et que les États viennent compenser. Voilà. Donc, il y a des concepts qui sont développés en sciences sociales. Il y a Maud Simonet qui parle de travail gratuit. On peut aussi parler de bénévolisation du travail, bénévolisation des services publics. Et ça va très loin parce que dans certains services publics même inattendus, hein, comme les gendarmeries ou la police, on trouve maintenant des bénévoles hein, qui peuvent faire l'accueil dans les commissariats ou les casernes.
C'est pas vrai.
Si, si, c'est vrai. Ça s'appelle les réserves citoyennes. Et ça a été développé sous François Hollande en 2016. Il y a des réserves citoyennes qui existent.
Ah, j'étais pas là, moi. Je vivais au Canada, justement, au Québec. J'ai raté ça. Oh la vache! Ouh, je vais regarder ça en détail. Alors, justement, ces gens-là sont-ils, pour reprendre votre paragraphe, page 9, des engagés, des bénévoles ou des militants? Je dis ça parce que, en fait, vous expliquez que ces trois termes, vous allez les employer, vous allez en choisir un plus que les autres, mais ça vaut le coup peut-être de comme l'on dit au Québec, de mettre la table, donc d'expliquer les choses. Qu'est-ce que vous entendez par ces trois termes et en quoi ils se distinguent?
Alors, bénévole, c'est vraiment le fameux travail gratuit. Enfin, en tout cas, c'est... le bénévolat en latin, c'est s'engager volontairement pour le bien. Et du coup, c'est volontaire et c'est pas rémunéré, quoi. Voilà, on n'est pas obligé de le faire. Par contre, militant, il y a militaré derrière, il y a la dimension militaire. Donc, on est dans une organisation collective. On va être et on va suivre des manières de faire. Et c'est souvent utilisé avec une connotation plus politique que bénévole. Donc, effectivement, là, on navigue un peu entre les différentes couleurs des associations et leur objectif, en fait, derrière. Engager, là, c'est quand, justement, on va... Enfin, pour moi, c'est peut-être le terme qui est le plus global. Parce que donc il y a cette notion du volontaire, enfin on s'engage, on est volontaire pour s'engager. Et on peut s'engager pour une cause politique, comme une cause solidaire, comme une... enfin voilà, c'est, je dirais, peut-être le terme qui est le plus global.
Qu'est-ce que le burn-out militant? Question page 16 avec trois réponses. Je vous laisse nous les donner. Qu'est-ce que le burn-out militant?
Alors, le burn-out militant, enfin, les trois réponses, c'est peut-être les trois parties du livre où on parle des trois caractéristiques du burn-out militant par rapport au burn-out professionnel, on va dire, même si les deux se ressemblent beaucoup. En fait, on revient sur les parallèles. Les trois caractéristiques du burn-out militant, le premier, c'est le fait que il y a le don, enfin, la culture du sacrifice personnel dans le monde du bénévolat, du militantisme, qui est très forte et qui est une cause structurelle du burn-out militant. Le deuxième, c'est une impossible prise en charge du bien-être par les organisations associatives, militantes, parce que voilà, on s'engage pour une cause, on ne s'engage pas pour son bien-être, a priori. Et le troisième, c'est les répressions, en fait, qu'elles viennent de l'extrême droite ou qu'elles viennent de l'État, qui sont de plus en plus fortes envers le monde associatif, et aussi l'inaction politique, c'est-à-dire qu'on s'engage pour une cause, on va manifester, et il n'y a aucune réponse de la part des politiques. Donc ça, c'est aussi une autre cause structurelle.
Du coup, je veux bien compléter ce que là tu viens de présenter, les trois facteurs, en fait, les trois choses qui amènent au burn-out. Et du coup, moi, j'ai entendu la question un peu différemment.
Quelle équipe ? Mais oui, c'est peut-être lui qui a rédigé le chapitre en question, donc il va donner d'autres réponses que j'attendais, mais les autres, c'était très bonnes. Mais...
Oui, c'est les réponses sur le burn-out, sur la déshumanisation des relations personnelles.
Voilà.
Elle connaît la réponse, elle aussi.
Mais ça marche pour le burn-out professionnel aussi.
Oui, parce que du coup, le burn-out, donc, c'est un mot anglais encore, donc on peut peut-être trouver un nom français. C'est épuisement, voilà, ce serait la bonne traduction. Et donc, l'épuisement professionnel à la base, hein, c'est une notion qui a été inventée par Frederick Furdenberger, qui est un psychologue américain qui, dans les années 70, parle de burn-out hein, pour parler de gens qui s'épuisent au boulot. Voilà. Donc c'est là que c'est né cette notion, et après elle a été reprise dans les années 90 par des psychanalystes américaines, notamment Maslach et Gomez, et qui commencent à dire, bah, en fait, cette notion-là de burn-out, on peut aussi la mettre sur le monde militant. Et donc un burn-out, c'est quoi ? Donc il y a trois symptômes, donc c'est ça, les trois points. Le premier, c'est un sentiment d'épuisement, c'est-à-dire que les gens, ils sont crevés, et bon, concrètement, si on prend en image, c'est quelqu'un qui a fait un burn-out, c'est quelqu'un qui est coincé dans son lit, hein, qui a plus d'énergie pour se lever ou son canapé. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est vidé complètement. Ça, c'est le premier symptôme. Après, il y a un deuxième symptôme, c'est la déshumanisation des relations interpersonnelles. C'est-à-dire que, par exemple, on prend une autre image, c'est-à-dire que les autres, tout ce qu'ils font, ça sert à rien, voire c'est tous des cons. Hein. On est quand même assez cynique par rapport à l'action des autres. Et enfin, il y a un troisième symptôme, et ça, c'est celui qu'on peut appeler ça la perte de sens. C'est-à-dire qu'il y a une perte aussi, un sentiment... de perte d'accomplissement de ce qu'on fait. Hein, tout ce qu'on fait ne sert à rien. Voilà. Et du coup, quand on cumule ces trois symptômes, on peut dire qu'une personne a fait un burn-out, et ça marche aussi bien pour le monde professionnel que pour le monde militant.
Comme dit le chat, ils sont très bons. C'était la bonne réponse, très complète. Bravo à vous deux. Simon, on perçoit dans votre réponse que vous apportez dans votre livre des connaissances qui viennent du monde du travail. Il y a notamment un dénommé Christophe Desjours que j'avais adoré dans les années 90, qui était arrivé avec cette notion de souffrance au travail que vous citez régulièrement. Vous citez des chercheurs et des chercheuses européens et nord-américains. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une connaissance en sciences humaines derrière votre travail. C'est pas que un guide, c'est ça que je voulais dire.
Oui, tout à fait. On a milité, mais c'est un livre qu'on a écrit aussi en tant que chercheur. Donc on a déjà fait ce qu'on appelle un état de la littérature. On s'est demandé qu'est-ce que c'était que cette notion, et on a essayé de la définir scientifiquement. Et du coup, on n'est pas le premier à le faire, donc c'est pour ça qu'on s'appuie sur les travaux d'auteurs qui travaillent sur ce sujet depuis très longtemps. Parce que aussi, cette histoire de burn-out ou d'épuisement, enfin évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Hein, on en parle beaucoup depuis 2019, hein, depuis MeToo, et puis depuis qu'il y a des féministes sont emparées de ce terme de burn-out. Mais évidemment, ça existe depuis très longtemps, hein, dans le monde professionnel comme dans le monde militant. Hein, dans le monde militant, là, il y a eu un colloque il n'y a pas très longtemps sur la révolution épuise nos enfants. La Révolution française, hein, dans 1789. Et du coup, dans ce colloque, donc, des collègues chercheurs rappelaient que sur les barricades, on pouvait mourir, mais aussi on s'épuisait. Et il y a eu évidemment après d'autres témoignages sur les grandes grèves de 1936, du Front Populaire, avec des gens qui s'épuisaient, ou plus récemment aussi sur mai 68 et compagnie.
Jusqu'ici, ouais. Je trouvais ça très agréable cet entretien, mais là, tout d'un coup, d'essayer de décourager les millions de gens qui sont dans le chat, à qui d'ailleurs vous pouvez répondre, en disant qu'il ne faut pas bâtir des barricades, que ça vous... Si, c'est le moment. Il faut la culture du sacrifice dont vous parlez très rapidement.
Il faut s'engager.
Il faut s'engager, on est bien d'accord.
Oui, il faut s'engager. Après, on sait que dans le livre, on commence par dire que s'engager, c'est génial. Hein, voilà, que ça apporte plein de choses, outre le fait de changer le monde, outre le fait d'aider les autres, ce qui est quand même assez satisfaisant, enfin, c'est émancipateur.
Et le sous-titre du livre, c'est quand même « Comment s'engager sans se cramer ». Voilà.
Voilà.
Donc le livre n'est pas...
C'est pour se protéger, c'est pas pour brûler dessus.
Ne nous fais pas des faux procès. Hein.
Non, absolument pas. Non, absolument pas. Il y a un point, évidemment, qui nous est cher ici, sur lequel on viendra tout à l'heure, mais qu'on peut déjà un petit peu aborder, c'est que dans l'épuisement militant, il y a quand même un fait, me semble-t-il récent, même si là je suis un peu embarrassé, puisque vous venez de parler de la Révolution, de la Commune, etc., c'est la répression. La répression qui s'abat aujourd'hui sur les associations, sur les militants. Vous parlez d'un certain nombre de collectifs, il y en a un qui est juste au-dessus de nous, le collectif Action Justice Climat, qui revient souvent dans votre ouvrage, on va en parler. Mais ça, c'est un point très important, c'est le dernier chapitre d'ailleurs, mais je crois, c'est faire face à la répression pour les militants.
Ça doit être l'avant-dernier chapitre.
L'avant-dernier,
pardon. Parce que le dernier chapitre, c'est faire la fête. Célébrer.
C'est vrai.
Rire aussi, faire de l'art. On a essayé de finir sur une note quand même joyeuse et positive, parce que c'est aussi pour ça qu'on s'engage, c'est pour un monde plus joyeux. Donc, il y a toujours eu des répressions. Et effectivement, quand on parle de la Révolution française, ça serait vraiment anachronique de dire qu'il n'a jamais été... Enfin, c'est nouveau, les répressions, c'est quelque chose de nouveau. Mais sur un temps court, là, on observe quand même, depuis 2015, en gros, un état de droit qui s'effrite et des associations qui sont de plus en plus mises au pas. Et donc là, notamment, on cite les travaux de l'Observatoire des libertés associatives, qui vient d'ailleurs de sortir un nouveau rapport sur l'injonction à la neutralité. Je recommande d'aller voir ça, il est disponible en ligne gratuitement. Des associations qui est sorti il y a 10 jours. Donc,
parlons deux secondes, excusez-moi, c'est sur la fin. Voilà, page 157, l'Observatoire des libertés associatives, qui a été fondé en mars 2019. Par une coalition d'associations, et je trouve ça très intéressant je me suis dit, tiens, je vais les inviter, ces gens-là. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu ce qu'ils font, en dehors de faire des rapports il y a 10 jours?
Oui,
cet observatoire,
ils font quand même beaucoup de rapports et des recommandations auprès... ils organisent aussi une sorte d'autodéfense associative. Donc, il y a des recommandations, là, dans le dernier rapport, qui sont pour les associations elles-mêmes, c'est-à-dire connaître leurs droits, répliquer à certaines injonctions à la neutralité qui ne sont pas, en fait, légales, mais aussi des recommandations pour les collectivités locales. Là, par exemple, ce rapport, il est sorti aussi avant les municipales, parce que les collectivités locales peuvent faire en sorte de, par exemple, monter des observatoires des libertés associatives au niveau local, de soutenir des associations, même si elles ne sont pas du même avis politique. Enfin, voilà, c'est aussi des recommandations pour des collectivités locales qui voudraient être protectrices des libertés associatives. Donc, ils font quand même, effectivement, plusieurs enquêtes. Il y a eu une enquête aussi sur la chasse aux sorcières des associations autour de l'islam. Il y a eu, donc, autour de la loi post-loi séparatisme, par exemple. Il y a eu des rapports aussi sur ces nouvelles formes de répression, qui ne sont pas que des répressions physiques, mais aussi des répressions, de dissolution, par exemple, mais qui sont aussi... des répressions symboliques, des répressions douces, entre guillemets, de disqualification petit à petit, d'intimidation de membres. Ils ont essayé de, en fait, faire un peu un travail scientifique. Moi, je fais partie du comité scientifique de l'Observatoire des libertés associatives. Ils essayent de, faire une analyse de quelles sont ces nouvelles formes de répression politique, en fait, des associations.
Alors, il y a plusieurs réactions dans le chat par rapport à tout ça, et notamment, alors, le CER, c'est la...
Contrat d'engagement républicain. Oui.
Voilà, le contrat d'engagement républicain.
Qui fait partie de ce nouvel arsenal de soft répression, enfin, de, pardon, il ne faut pas que je parle avec des mots anglais, de répression douce.
voilà, c'est ça. Et qui, d'après Samo, c'est une inflexion majeure de la liberté, puisque le CER est lié à chaque demande de subvention.
C'est ça. il faut, enfin maintenant, pour pouvoir, il faut signer, montrer que, voilà, on signe le contrat d'engagement républicain. Donc là encore, l'Observatoire des libertés associatives et le CAC notamment, le collectif des associations citoyennes, a produit un peu des recommandations par rapport au CER. Qu'est-ce que vous pouvez faire, ne pas faire Et donc il y a des avocats qui conseillent pour pouvoir rester, on va dire, droit dans ses bottes en étant engagé dans des associations sans forcément se compromettre avec ce fameux CER.
Mister ZD, je garde ta question pour un peu plus tard. On va avancer dans la réflexion de nos invités. Au départ, si j'ai bien compris, le problème, ce n'est pas les associations, c'est les militants eux-mêmes. Ceux qui se prennent pour des héros, des super-héros, qui pensent avoir des capes.
c'est une question un peu provocatrice. Bah, non.
Non, non, qui ont le sens du sacrifice.
Jamais. Le propos du livre, justement, et c'est là qu'on fait aussi écho à Christophe Dejour, hein, c'est-à-dire qu'à aucun moment on est en train de responsabiliser les individus et de dire que c'est de leur faute. Hein. Nous, notre propos, hein, et c'est vraiment le cœur du livre, c'est de dire qu'il y a une responsabilité collective à l'épuisement des individus. Hein. C'est parce que l'organisation du travail militant est telle que les gens vont finir par s'épuiser. Mais du coup, je vois où tu veux en venir. C'est vrai que quand on s'engage, souvent, il y a des grandes figures héroïques hein, qui nous inspirent. Hein. Du coup, moi, au-dessus de mon lit, quand j'étais plus jeune, il y avait Che Guevara. Toi, ça devait être...
C'était qui ? Bon, c'était Che Guevara.
Che Guevara aussi, voilà, c'est certainement le meilleur. Non, mais il y a d'autres figures. Il y a Gandhi, et notamment Rosa Parks, voilà, et dont on parle dans le livre. Parce que ce qu'on rappelle, c'est-à-dire que dans les causes, souvent, on retient qu'un nom d'une seule personne. Et c'est des gens qui, ont été héroïques, se sont sacrifiés pour la cause. Sauf que ce qu'on rappelle, mais ça, c'est Hélène qui le raconte mieux que moi, c'est que, en fait, derrière chaque individu, il y a un collectif.
Oui, que toute victoire, c'est surtout, oui, derrière toute victoire, il y a un collectif. Et le fait de retenir finalement une figure comme le Che, comme Rosa Parks,
c'est... Ou comme Louise Michel, qui n'était pas la seule ambulancière.
Ouais, c'est le produit de notre société individualiste et du culte de la performance aussi. Et c'est comment on fait les histoires, comment on raconte les histoires, met en avant, on a pris l'habitude de mettre en avant des individus. Et ça crée aussi ce... culte du on peut réussir à apporter la révolution, sacrifice personnel et cette illusion que tout seul, si on a une victoire. Et donc là, on revient sur notamment l'histoire de Rosa Parks. Alors en se disant, bah là, pour une fois, il y a quand même eu un effort pour mettre en avant, grâce notamment à des collectifs féministes et tout, pour mettre en avant une figure féminine. Parce qu'aussi, avant ça, on avait plutôt Martin Luther King ou Malcolm X hein, dans le mouvement des droits civils. On n'avait pas en tête Rosa Parks, par exemple. Ou Ella Baker, ou d'autres personnalités, Angela Davis. Par exemple, derrière Rosa Parks, en fait, quand elle décide de ne pas céder son siège à une personne blanche qui rentre dans le bus, elle sait qu'elle va être soutenue parce qu'elle est membre de deux organisations, notamment une qui a envie d'organiser un boycott des bus comme c'était le cas à Saint-Louis, et donc là on est à Montgomery, et ça avait été un boycott victorieux. Donc ça fait plusieurs mois qu'ils préparent ce boycott. L'association dont elle est secrétaire, la NAACP, qui est une des organisations phares du mouvement des droits civils aux États-Unis, va la soutenir pour la faire libérer tout de suite en payant une caution, pour engager même des poursuites. Et du coup, voilà, son acte héroïque s'inscrit dans une organisation collective. Et c'est ça sur lequel on insiste, c'est que c'est important de s'organiser collectivement, d'être entouré et de prévoir, d'anticiper, d'avoir une stratégie et de ne pas faire des actes héroïques vains qui mèneront à l'épuisement de soi-même, mais aussi à la culpabilisation des autres qui n'en feraient pas assez.
Est-ce que le trait de l'époque, qui est quand même l'individualisation poussée à outrance, etc., pose pas quand même un problème aux associations ? Ou puisque tout est fait pour aller vers la personnification, pour être même brutal, même des marques. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est devenu quand même l'alpha et l'oméga de la communication. L'homme ou la femme providentielle, que ce soit en sport, en politique, en mode, en tout ce qu'on veut. Et est-ce que là, pour les associations, il n'y a pas une obligation à se réinventer par rapport à ça ? Je pense notamment à tous les go-trips autour des réseaux sociaux, etc., le fait de se mettre en avant.
C'est effectivement un des objectifs du livre, et notamment du premier chapitre, c'est vraiment de déconstruire ça. Parce que ça ne nous mènera nulle part et que c'est une des causes de l'épuisement et aussi du fait que des collectifs éclatent. J'ai vu beaucoup, il y a beaucoup plus longtemps dans le chat, j'ai vu passer quelque chose sur le burn-out en disant le burn-out au travail, est-ce que ce n'est pas le manque de reconnaissance ? Ça, c'est effectivement quelque chose sur lequel on revient.
Absolument.
L'importance de reconnaître le rôle de chacun dans un collectif. Le problème quand on héroïse une personne, c'est que du coup, on déhéroïse les autres en fait. Et ça, c'est un facteur d'épuisement, c'est un facteur de burn-out. Et du coup, voilà, c'est le livre s'inscrit justement refaire collectif, solidarité contre cette culture-là, et comment et aussi préfigurer le monde plus solidaire et plus collectif pour lequel en fait on s'engage au sein de ces associations.
Il y a une question qu'on peut aborder maintenant, même si dans votre livre c'est un peu plus tard, qui est posée par FBAE75. Le droit à la déconnexion existe-t-il dans le militantisme ?
Oui, c'est un sujet qui a été posé par plusieurs associations, et notamment une association féministe qui est assez connue qui s'appelle Nous Toutes. En gros, concrètement, au tout début, elle s'envoyait sur les boucles WhatsApp des échanges en permanence, mais du coup, le matin très tôt, comme la nuit. Sauf qu'elles se sont rendues compte que si elles étaient tout le temps à répondre en permanence, il n'y avait jamais de déconnexion, elles étaient toujours sur le coup. Et ça pouvait poser des problèmes, évidemment, d'épuisement. Parce que, d'autant plus que si on ne réagit pas, les autres peuvent nous dire « Ah bah pourquoi t'as pas réagi tout de suite ? Pourquoi t'as pas répondu ?» En gros, elles se mettaient la pression entre elles. Donc elles se sont donné des règles très simples, hein, c'est-à-dire qu'entre 9h et 20h, on peut s'envoyer des messages, mais après, c'est un temps de repos et on s'arrête. Donc ça, c'est un peu comme dans le monde du travail.
C'est pas exactement ça. Pardon, c'est pas exactement ça. C'est pas 9h, 20h. Déjà là, je vois que tu tords le truc. C'est entre 19h30 et 8h30, on ne s'en voit rien.
Voilà,
donc
merci.
Là, t'as gratté une heure, tu vois. C'est pas bon, ça.
Bon, en tout cas, vous avez bien lu le livre, ça fait plaisir.
Bien sûr. C'est la moindre des choses, quand même. Quitte à s'épuiser, autant s'épuiser instruit. C'est la base.
Donc, merci pour ce rappel des horaires, qui peuvent varier en fonction si c'est l'été ou l'hiver.
Et le dimanche.
Et le dimanche, oui. C'est très important.
Oui. Et le dimanche jusqu'à 14h. Ça va beaucoup plus. Alors là, j'ironise, mais en fait, ça, c'est votre bouquin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de nous toutes qui vous explique comment nous toutes a réglé ce problème qui est, au poste, on ne connaît pas, de la connexion permanente.
Ouais, tout à fait. Et alors, du coup, on a vu d'autres collectifs qui ont d'autres techniques. Hein, parce qu'on ne dit pas il faut faire comme nous toutes. On dit c'est comme ça que fait nous toutes. Et en fait, elles se sont emparées de ce problème du numérique qui rentre dans tous les instants de notre vie, quoi. Et qui ne nous permet pas de penser à autre chose, quoi, et de faire des pauses. Et il y a un autre collectif, alors j'espère que je ne vais pas dire de bêtises cette fois-ci, qui s'appelle la Psychoteam. Donc, c'est une association qui vient en aide, justement, aux gens qui s'épuisent dans les manifestations, etc. Et pareil, eux, ils se sont dit ce qu'il nous faut, des vacances numériques. Sauf que pour prendre le temps de se ressourcer, c'est important de prendre des vacances, les gens vont sortir des boucles Telegram cette fois, il me semble, c'est bon, j'ai juste juste le temps de prendre de leurs vacances, quoi, et de pouvoir penser à autre chose.
Je suis un petit peu déçu que personne n'ait dit que prendre des vacances numériques, c'est regarder au poste matin, midi et soir, mais c'est comme ça, c'est voilà. Le point important, semble-t-il, c'est séparer la vie privée de la vie militante. Ça, c'est quelque chose qui revient. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, j'imagine que votre livre n'a pas dû être facile à rédiger dans le sens où tout semble s'imbriquer. L'épuisement, il est multifactoriel, on pourrait dire, non ?
C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur le plan du livre. Et on l'a beaucoup remanié, rebougé pour avoir un récit linéaire, là où la vie n'est pas linéaire et ce qu'on raconte n'est pas linéaire. Donc, à un moment, effectivement, l'écriture, on ne fait pas une carte mentale, quoi. Donc, Ça, c'est effectivement, ça a été de longs sujets de discussion. Pour revenir sur la question qui était... Du
coup, j'ai je ne sais plus, figure-toi.
Non, mais sur l'intrication des différentes sphères de vie, en gros. Mais,
il a mieux lu l'interview que moi.
Après, je vais prendre un exemple. C'est que, pour cette partie-là, moi, je pensais beaucoup aux maoïstes, parce que j'ai beaucoup lu le travail de Virginie Linhart, qui s'est intéressée au mouvement maoïste de son père, Robert Linhart, qui a écrit notamment « Le jour où mon père s'est tu ». Donc, en gros, les maoïstes, c'est des gens qui, dans les années 60-70, se sont dit « Bon, on a raté la révolution de 68, et du coup, on va la faire ».
S'était établi
tout à fait.
Dans une usine, en fait un livre qui s'appelle L'Établi, et Virginie Linhart, qui est sa fille, revient là-dessus. Il y a eu par ailleurs un film sur la vie de
Robert Linhart.
De Robert Linhart.
Et c'est vrai que c'est hyper intéressant comme histoire. C'est des gens qui se sont engagés. C'est-à-dire que leur militantisme était très important pour eux. Ils voulaient faire la révolution. Donc ils se sont dit, on va aller s'établir en usine, on va devenir ouvrier. Donc ils ont fusionné finalement deux univers, le monde du travail et le monde militant. Et en plus, là-dedans, en fait, ils ont embarqué souvent leur famille entière, parce que et ils se sont retrouvés à un moment, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire la révolution, ils sont engagés tout entier dedans, et en fait ils s'y sont épuisés. Et après, c'est ce qu'on raconte, c'est que le problème, c'est que à tout fusionner, en fait, ils n'avaient plus d'espace pour se ressourcer. Et dans le livre, du coup, on prend un exemple d'un militant du Parti socialiste, c'est très différent des maoïstes, mais du coup il s'épuise, et en fait au moment où en fait il est crevé, et en fait il y a personne à qui en parler au sein du Parti socialiste ou parmi ses anciens camarades. Bon, et le seul moyen qu'il a pour se ressourcer, c'est d'aller voir un psychologue. Et c'est quelque chose qu'on regrette, ou en tout cas qu'on constate, c'est que dans les organisations militantes, quand les gens sont fatigués, en fait, on ne les écoute pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours mieux à faire que d'écouter des gens qui s'épuisent dans leur militantisme, aller aider des sans-papiers, aller essayer de sauver le climat, et on ne prend pas le temps de réfléchir aux soins, à comment prendre soin les uns des autres.
Et pour compléter sur la question vie privée, vie militante, on dit aussi que militer et s'engager, c'est une super opportunité pour rencontrer des nouvelles personnes et potentiellement se faire des amis. Et ça, il ne faut pas passer à côté, on ne dit pas du tout ça. Mais c'est quand même bien de préserver aussi des cercles familiaux ou amicaux qui ne sont pas les mêmes que ces cercles militants, parce que si à un moment ça devient trop intense, on n'a pas ce droit à la déconnexion, justement. C'est ça qu'on...
Petite question qui nous ramène un tout petit peu en arrière de Salva Graf. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un individualisme voulu également par le groupe? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un conflit entre militants les plus expérimentés et novices, conflit qui induit un burn-out des plus novices?
Si, ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup et sur lequel on revient justement dans le livre sur comment bien accueillir les nouveaux. Parce que bien accueillir les nouveaux, ça veut dire avoir plus de force après pour travailler collectivement, mais ça prend du temps, donc il y a un petit investissement initial pour bien le faire, pour que ces nouveaux se sentent à leur place et ne partent pas ou ne se sentent pas assez reconnus, voire s'épuisent aussi plus rapidement parce qu'ils font pas bien les choses et ils manquent de reconnaissance. Bref, tout le monde a y gagner, mais ça prend un peu de temps initialement, et donc on revient beaucoup sur ça dans la deuxième partie du livre qui est autour de comment créer des collectifs sains.
Comment s'organiser.
Comment s'organiser, exactement. Et en fait, notamment, on parle aussi, alors là, je change un peu de sujet, mais le fait de bien écrire des fois des règlements intérieurs pour prévenir, anticiper en cas de conflit, en cas de même violence au sein du groupe, comment gérer ces conflits, ces violences. Généralement, c'est mieux de prendre le temps en amont, mais du coup, c'est un peu pénible. Souvent, quand on s'engage, on a envie d'aller vite vers la cause et ce pourquoi on s'engage. On n'a pas envie de passer du temps à écrire faire des règlements, à penser au cas où ça, à penser à des conflits éventuels, comment on ferait ça. Mais on le voit, c'est essentiel pour pas que les collectifs explosent dès que une personne un peu toxique prend toute la place, ou même il y a des VSS, ça arrive au sein d'associations. Comment on fait pour traiter ces cas-là?
Vous évoquez ces questions-là, effectivement, dans le livre. Je voudrais qu'on reste un petit peu sur le chapitre 2, intitulé « S'organiser ». Je parlais tout à l'heure d'Action Justice Climat, qui sont juste au-dessus de... Voilà. Enfin, c'est, ça, c'est leur atelier de sérigraphie. C'est eux qui font les t-shirts topos, etc. Eux, ils sont un peu plus loin de là où nous sommes, c'est-à-dire dans un tiers-lieu à Paris. Et j'ai appris avec bonheur, en vous lisant, qu'en réalité, un collectif comme celui-ci et beaucoup d'autres devaient leur organisation à des gens pionniers, valeureux. Je parle là d'ACT UP. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment ACT UP, au tournant des années 80-90, a jeté finalement les bases organisationnelles, si je puis dire, pour parler en Mao, du militantisme d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit à ces gens-là, ACT UP?
Oui, alors ACT UP, donc, c'est une association, un collectif militant très actif des années 90, mais qui existe toujours. Hein, donc ACT UP à Paris, et du coup, il militait contre le VIH et ceux qui étaient responsables de sa propagation, à savoir l'État, hein, qui ne faisait pas son travail de prévention, et aussi l'industrie pharmaceutique, hein, qui faisait du business sur leur dos, alors qu'eux étaient en train de mourir de la maladie. Et donc, il y a un film qui est super, qui raconte très bien l'histoire d'ACT UP, c'est 120 battements par minute. Hein, un film magnifique, très tire à l'arme, hein, et très triste, mais aussi très beau, il y a beaucoup d'énergie militante, et au tout début...
Il y a une scène qui vous a marqué.
Il y a une scène qui est marquante, hein, et c'est au tout début, et c'est la scène d'accueil. Et c'est vrai qu'elle est assez exemplaire dans le sens où il y a un militant, il y a des militants qui arrivent dans cette nouvelle association et il y a un autre militant qui dit, bah voilà, ACT UP, c'est quoi? C'est quoi le projet d'ACT UP? À quoi on sert? Et après, il explique aussi comment ce qui va se passer. Toutes les décisions à ACT UP sont prises en Assemblée Générale et il explique, bah voilà, c'est une Assemblée Générale, il y a un ordre du jour, on va prendre les décisions en votant. Si vous êtes d'accord, vous secouez les mains plutôt que d'applaudir pour éviter de casser les débats. Voilà, en gros, en 2 minutes 50, il y a un militant qui explique à un novice quel est le projet et comment ça se passe, comment on prend des décisions. Et en fait, ça, c'est assez important dans le sens où tout ça n'est pas transmis toujours aux nouvelles personnes qui arrivent dans le collectif.
Avec des règles, tu parlais tout à l'heure de règles très cadrées, si je puis dire. Par exemple, l'heure de fin de réunion est établie à l'avance et pas question, comme le chat l'évoquait à l'instant, de réunions à n'en plus finir qui sont pour le coup fatigantes, épuisantes, etc.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en gros, il y a un jour fixe pour les réunions et il y a des heures aussi qui sont déterminées à l'avance et qui sont respectées. C'est très important parce que c'est vrai que parfois, quand on s'engage, on connaît ces réunions à rallonge. Maintenant, là, si on arrive, quand l'heure s'arrête, bah, du coup, les points qui n'ont pas été abordés sont reportés à l'ordre du jour suivant. Voilà, donc ça, c'est une bonne pratique, hein, qui permet à dire, bah, voilà, l'engagement, ça prendra un temps, mais limité. En tout cas, on sait à l'avance combien de temps on va investir là-dedans. Quoi.
Votre bouquin, qui est une forme de boîte à idées, de boîte à outils du militantisme, enfin, en tout cas de l'organisation, pour prendre soin de chacun, on parlera de ça tout à l'heure, évidemment, n'explique pas tout à fait, ou alors je l'ai mal lu, la transmission de savoir entre une association à l'autre, d'une époque à l'autre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce savoir d'Action Justice Climat, pour reprendre cette association-là, qui vient d'ACT UP, comment c'est transposé? Qu'est-ce qui fait l'héritage des bonnes pratiques, on pourrait dire?
Alors, je ne sais pas si je peux répondre exactement à cette question-là, mais il y a quand même beaucoup de bonnes pratiques qui puisent dans les méthodes de l'éducation populaire. Quand on parle de réunions, d'animation participative, de prise de décision horizontale, il y a beaucoup de méthodes qui sont prises, enfin qui sont issues de l'éducation populaire. Alors là, ça revient, enfin il y a plein de branches de l'éducation populaire. Hein. Il y a les mouvements de jeunesse, qu'ils soient religieux ou non. Il y a la résistance, comment les personnes se sont organisées dans les maquis, comment elles ont appris entre elles, comment les ouvriers aussi se sont organisés dans des syndicats et même avant les syndicats pour partager la connaissance, pour prendre des décisions en interne. Enfin voilà. Toute cette culture un peu d'organisation collective et militante s'est transmise via les mouvements d'éducation populaire. Il y a eu même après la résistance, enfin du coup après la Seconde Guerre mondiale, le Conseil national de la résistance qui avait même créé un ministère de l'éducation populaire qui a duré que quelques années pour essayer justement de transmettre un peu ces méthodes d'organisation, d'apprentissage collectif par le bas entre guillemets par rapport à l'éducation nationale très descendante et qui a fait des petits qui restent encore comme les MJC, les centres sociaux, même si ils se sont beaucoup tournés vers des loisirs et des services. Mais voilà, il y a un renouveau un peu de l'éducation populaire ces dernières années. On parle des fois de nouvelle éducation populaire ou avec de nombreux collectifs qui remettent au goût du jour toutes ces méthodologies-là et qui font notamment des formations auprès de collectifs, auprès d'associations qui sont en souffrance, qui sont en conflit et qui les aident à sortir de ces impasses.
Vous savez que... Oui,
oui. Non, ce que je voulais ajouter juste, c'est qu'avant, en gros, la culture militante, elle se transmettait aussi dans des grandes organisations de masse, hein, comme les syndicats, hein, qui avaient des écoles et qui transmettaient sûrement cette manière de s'organiser. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un... Donc, du coup, tout ça, c'est un petit peu délité, malheureusement. Les syndicats ne sont plus aussi puissants qu'ils ont pu l'être auparavant et ils jouent un peu moins leur rôle, notamment dans les transmissions de ces pratiques militantes. Mais par contre, oui, avec Sainte-Soline... Quand la gendarmerie, du coup, a attaqué clairement des manifestants écologistes qui manifestaient contre les bassines, y a eu des violences extrêmes. Et ça a créé un déclencheur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été clairement traumatisés par les violences policières. Et à partir de là, il y a des collectifs, notamment les soulèvements de la terre, qui se sont dit « en fait, il faut qu'on réfléchisse à... prendre soin les uns des autres. » Et ils sont mis à créer des guides et lors de leurs événements, ils se sont dit aussi, on aura des pratiques de prendre soin qui sont assez intéressantes et du coup qui inspirent de nombreux collectifs aujourd'hui. Quoi.
Vous savez que vous avez mis les pieds dans l'avant-garde de l'avant-garde et là, il y a des gens qui sont durs, hein, mais j'aime leur provocation. Maître Bell vous demande, vaut-il mieux un militant brisé mais qui a obtenu une micro-victoire ou un militant épanoui qui n'a rien changé du tout? Journal Louise, intrépide journaliste indépendante, on parle beaucoup de prendre soin et c'est très bien, mais la cause pour laquelle on s'engage dans tout ça, point d'interrogation. Est-ce qu'à trop penser au bien-être militant, on n'en oublie pas un peu ?
Un facteur du burn-out militant qui est ne pas arriver à...
Le pourquoi de nos combats ?
Alors, il y a quand même à obtenir des victoires. Donc, effectivement, si on veut vraiment ne pas s'épuiser en militant, il faut quand même arriver à obtenir des victoires. Et ça, d'ailleurs, c'est aussi un conseil, entre guillemets, qu'on transmet de la part d'autres militants, d'autres personnes engagées, qui vient notamment de ces fameuses organisations de quartier dont on parlait au tout début, qui est de paver son chemin vers la grande cause de petits objectifs atteignables et célébrer chaque petite victoire. Parce que c'est important de voir que si on progresse. Donc, en gros, pour répondre à cette question un peu ironique, l'idée quand même, quand on s'engage pour une cause, c'est effectivement principalement d'être tourné vers cette cause. Et là, notre objet, c'est de dire oui, mais il ne faut pas non plus aller jusqu'à pousser les gens vers le gouffre, quoi. Oui, effectivement, quand on s'engage, et en plus c'est un facteur du burn-out que de ne pas arriver à obtenir des victoires. Donc forcément, l'important c'est quand même d'essayer d'obtenir des victoires aussi. Mais avoir une organisation qui n'éclate pas, c'est aussi une forme de victoire. Et donc célébrer l'arrivée d'un nouveau membre, un rendez-vous obtenu avec un élu, c'est important. C'est important aussi.
Justement, là, Hélène, on arrive à la page 91, qui m'a bien fait réfléchir, quand même. Reconnaître la contribution de chacun et partager les rétributions du militantisme, ça, c'est le titre du chapitre, donc c'est un peu ce que tu viens d'expliquer, ça, c'est très bien, mais vous allez puiser immédiatement dans ce que vous appelez la culture anglo-saxonne. Donc, en gros, c'est l'employé du mois, quoi. C'est l'employé du mois de chez McDonald's. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu, c'est-à-dire « Oh, bravo !» Non ?
Alors, effectivement, il y a chez les anglo-saxons, et je disais que moi, j'ai été engagée en Angleterre, et au début, il y avait des fois où ça me ça me faisait rire.
Ça va jusqu'à décerner des prix à des bénévoles, par exemple.
Alors ça, on ne dit pas qu'il faut forcément le faire, mais on dit que des organisations vont jusque-là.
Oui, oui, voilà. Oui, voilà.
Donc moi, je n'ai pas été dans des organisations qui allaient jusque-là pour autant, mais si d'avoir un petit diplôme à la fin d'une... C'était possible, mais tout le monde avait ce petit diplôme. Enfin, c'est effectivement reconnaître la part de chacun, même quand on n'est pas... starifié, comme on disait dans le chat, c'est quand même important. Et c'est vrai qu'en France, on a vraiment cette culture plus de se plaindre, d'autocritique, de critiquer, et c'est bien, c'est notre force, mais c'est aussi un peu épuisant, et c'est bien aussi de célébrer des petites avancées, des petites victoires, et c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins culturel chez nous, et qui est important à faire, et je pense que ça se retrouve dans notre éducation à l'école. Quand on voit à l'école, c'est très beaucoup. Enfin, les enseignants en Angleterre, enfin ce que j'ai pu voir, sont beaucoup plus dans féliciter, encourager, aller de l'avant, même quand on se trompe, et moins dans juste la sanction et de dire qu'on aurait pu mieux faire, quoi.
Attends, moi je voudrais revenir sur l'employé du mois parce que je suis pas d'accord et je pense que même dans la culture française militante, on a aussi des moments où on se félicite les uns les autres. Par exemple, aux résistantes, à la fin de ce festival qui est politique, les gens qui ont organisé, ils vont sur scène et puis on leur dit merci, toi, collectivement, ils sont applaudis. Et oui, ça vaut le coup quand même de dire merci aux gens qui s'engagent, qui ont pris le temps pour qu'un événement se passe bien ou qui ont réussi à changer les choses. Enfin voilà, donc en tout cas, se féliciter, ça me semble pas la culture anglo-saxonne. En France aussi, on le fait et puis peut-être qu'on le fait pas assez.
Non, mais je poussais un peu le bouchon parce qu'effectivement, vous donnez des exemples nord-américains. Le culte du diplôme, on le voit avec Trump. Hein, c'est quand même, tu vois, il va avoir tous ses prix possibles. Tu vois, c'est tous les Américains ont chez eux tous leurs diplômes dans leur entrée, leurs trophées. Bon, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc c'était, je poussais un peu le bouchon, évidemment.
Non, bien sûr, mais après, en fait, on a plein d'exemples. C'est-à-dire que quand on fait des assemblées générale, quand une association fait son assemblée générale, pareil, et quand même, souvent, on félicite les gens qui vont donner du temps, qui vont prendre des responsabilités. Et bon, franchement, c'est plutôt pas mal, ça fait plaisir aux personnes, et puis il n'y a pas de mal, du coup, à faire ce plaisir-là aux gens, quoi.
La question qui se pose, qui traverse un peu notre conversation et votre livre, c'est celle de comment on sort des rapports de domination dans tous les sens du terme. Quelles sont les solutions que vous avez trouvées, que vous avez rencontrées par rapport à cette question-là dans les différents collectifs, associations que vous avez étudiées ?
Y en a plein. Enfin, on peut commencer par parler des dominations de genre, par exemple. Hein, et c'est vrai que souvent... Dans une réunion,
bonne illustration, c'est-à-dire c'est toi qui prends la parole.
J'ai le droit de parler des sujets de genre.
La domination. je blague.
Puis là, on se répartit plutôt bien la parole, j'ai l'impression.
Excellemment, vous êtes parfait.
Et bon, je vais continuer là-dessus. Non, mais en gros, il y a des collectifs féministes qui sont montés et du coup, on parle de sujet. Et c'est vrai que même si les hommes sont moins nombreux, c'est eux qui vont accaparer la parole. Donc ça, c'est un phénomène qu'on rencontre dans de nombreuses organisations. Et on cite des solutions. Par exemple, il y a les jeunes écologistes. Ce qu'ils font, c'est la fermeture éclair.
Oh, c'est pas chiant, hein, j'allais y venir.
Bravo. Donc, pas chiant. Hein. La fermeture éclair, c'est simple. Hein, puis c'est fait dans de nombreuses organisations. C'est-à-dire que si un homme prend la parole, ensuite, ça sera une femme. Ensuite, ça sera un homme, ça sera une femme. Voilà, l'idée, c'est d'arriver à avoir un fonctionnement équitable. S'il y a une fermeture éclair, hein, un homme, une femme, un homme, une femme. Mais après, malgré tout...
J'ai vu aussi... Pardon de te couper. J'ai vu aussi la même chose. Avec aussi des gens qui ne se définissent pas par genre. Donc, il faut... la fermeture éclair, elle est à trois niveaux, quoi. Ça peut arriver. Et nous, dans les débats publics que nous faisons au poste, on essaie de mettre ça en place. Mais il faut dire qu'un public qui n'a pas l'habitude de ça ne comprend pas, a vraiment du mal avec cette notion-là, alors qu'en fait, elle libère totalement la parole. Enfin, c'est hyper efficace.
Et on peut le faire aussi avec, par exemple, des personnes racisées. Qui sont des fois pas les personnes qui vont spontanément plus prendre la parole dans un... s'il y a une assemblée avec principalement des personnes blanches. Et donc de donner la parole aussi prioritairement aux personnes racisées, aux femmes racisées. Il y a des collectifs qui font ça aussi.
Et alors, du coup, il y a parfois, malheureusement, ça suffit pas. Et alors, du coup, on parle, je sais plus quelle page c'est, hein, tu nous diras. Mais c'est vrai qu'il y a des pratiques aussi qui sont très anciennes, hein, qui permettent de résoudre ce problème de genre ou voilà, d'accaparement de la parole par les personnes blanches. Et c'est les réunions non mixtes. Et ça, c'est très ancien aussi. Hein, c'est-à-dire que déjà, je reparle beaucoup de la Révolution française aujourd'hui, mais déjà pendant la Révolution française, il y avait des clubs de femmes, hein, qui s'organisaient entre femmes pour être tranquilles et pouvoir s'organiser. Et après, ça a été...
Le wokisme date de... On peut le dater de 1789, en fait.
C'est très vieux, le wokisme.
Les gens étaient éveillés depuis, même avant la Révolution française.
Hein. Le wokisme était arrivé avant l'extrême droite. Hein
je pense qu'en 1789, il y avait quand même de l'extrême droite. Mais bon, après, elle était royaliste.
Les historiens s'accordent à dire que ça arrive un petit peu après. Mais bon.
Oui. Ouais. Bref. Sur le débat, je ne suis pas prêt là-dessus. Non, mais juste pour dire, après, les réunions non mixtes, elles ont été remises au goût du jour, notamment par les mouvements des années 60-70, hein, notamment le MLF, hein, le mouvement de libération des femmes, qui s'organisait de manière non mixte, c'est-à-dire entre femmes. Et après, il y a les mouvements, notamment le mouvement lesbien qui s'en est occupé, donc qui s'en est accaparé. Donc, c'est-à-dire qu'on va être juste entre femmes lesbiennes. Et bon, et après, ça a été développé par les antivalidistes ou les personnes racisées qui peuvent aussi s'organiser entre elles. L'idée, en fait, c'est d'avoir des espaces de discussion sans des personnes qui viennent les perturber, donc des personnes qui représentent ou qui peuvent avoir des comportements inappropriés, quoi. Donc, c'est quand même une solution hyper intéressante.
C'est page 102 pour ta gouverne. Quant aux dévalideuses, un collectif qui se revendique anti-féministe, il fonctionne, écrivez-vous, même en double non-mixité. Elles n'acceptent pas les hommes cis, c'est-à-dire dont le genre attribué à la naissance est le même que celui par lequel la personne se définit, ni les personnes valides. Et vous avez Françoise Vergès, qui vous parle justement des expériences des années 70 de non-mixité. Mais moi, je l'ai appris par vous. Je pensais que ça datait des années 70. Non, c'est beaucoup plus vieux. Ça date des années 70, mais du 18e siècle, quoi, en fait. c'est ça. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne réponse à tous les réacs, quoi.
Quand on parle du backlash réactionnaire en ce moment, c'est qu'il balaye plus de 200 ans d'avancées sociales et progressistes, quoi.
Ouais, et ce qu'on dit aussi, c'est que dans le livre-là, en fait, le mot de burn-out, évidemment, il est extrêmement récent en France. Hein, on parle de burn-out militant depuis seulement quelques années. Mais évidemment, en fait, les pratiques de prendre soin, en fait, elles sont extrêmement anciennes, et notamment s'organiser en non-mixité, voilà, c'est très vieux. Et en fait, il y a d'autres exemples de pratiques de soins, de prendre soin, de solidarité, parfois.
Par exemple, les caisses de grève, ça fait partie de ces pratiques de soins, de redistribution, on n'a pas tous les mêmes ressources pour s'engager, comment on fait pour aider ceux qui n'ont pas assez de ressources pour pouvoir ne pas toucher de salaire pendant plusieurs jours lors de grève. Les pratiques aussi de bambinerie, de garde d'enfants, pour permettre aux parents de aussi pouvoir s'engager en mutualisant les gardes d'enfants. Ça existait avant, mais ça se développe de plus en plus dans les collectifs qui remettent un peu au centre le soin et l'entraide militante, quoi.
Dans les années 70, au MLF, il y avait des bambineries qui étaient réservées aux hommes. C'était les hommes qui gardaient les enfants pendant que les femmes débattaient. C'est intéressant. J'ai des photos.
Oui, voilà. Donc, encore une fois, ça, c'est assez ancien. Puis après, se développent aussi des événements qui sont, encore un mot anglais, mais kids-friendly. C'est-à-dire que les enfants sont les bienvenus dans ces espaces militants. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des résistantes. Aux résistantes, il y a des ateliers pour les enfants pendant que les adultes, du coup, vont suivre des débats ou participer tout simplement à l'événement. Puis après, voilà, aussi dans le livre, en fait, parfois, on dit des choses qui peuvent sembler évidentes à des gens qui sont militants depuis longtemps, mais l'idée, encore une fois, c'est de faire circuler les idées. Et dedans, on parle par exemple d'un militant du Parti communiste qui dit, quand on fait la réunion, en gros, il y a deux salles, et du coup, je propose aux mamans que les enfants occupent la deuxième salle, celle qui est attenante, là où on a nos débats. Voilà, c'est juste être attentif aussi à ce dont les autres ont besoin pour s'engager.
À propos d'attentif, il y a Jean-Kev Bien. Bon, j'ai vu ces pratiques, de la fermeture éclair par exemple, dans les milieux anarchistes. Après, il faut lisser le côté parfois trop New Age que ça peut prendre. Et c'est, je le remercie d'intervenir parce que parfois, c'est un peu ce que j'ai ressenti dans quelques recettes, dans quelques méthodes qui sont délivrées dans le livre par les collectifs que vous avez rencontrés. Il y a des moments où je me dis, on est quand même dans un truc très à bisounours, quoi. Non ?
À New Age, c'est bisounours ?
Ah ouais. Non ?
Je sais pas.
Après, encore une fois, nous, notre idée, c'est pas de dire qu'il faut adopter toutes ces pratiques. C'est juste, on dit, voilà, qu'est-ce que font les gens? Et en gros, chaque organisation est différente et chaque organisation, du coup, a des besoins, a besoin de s'organiser de manière différente. Donc voilà, c'est plutôt, il faut piocher parmi toutes ces pratiques. Après, moi, je n'aurais qualifié aucune de ces pratiques de New Age. Je sais pas, parce que c'est...
Par contre, de bisounours, oui, pourquoi pas. Moi, je trouve ça chouette, les bisounours. On a besoin de bisounours là, dans ce monde qui va mal. Mais non, mais alors, peut-être moi, comment je comprends la question et ce que j'ai déjà ressenti des fois, c'est le côté un peu très presque sectaire de certaines pratiques, et, respecter des règles que tout le monde... à l'art de... Et un peu jugeante si on n'a pas de connaître et que nous, on débarque et on n'avait pas compris qu'il fallait faire un geste ou qu'il fallait... Enfin, c'est vrai que ça peut arriver des fois que tous ces codes, s'ils ne sont pas bien présentés au début, s'ils ne sont pas amenés avec un peu d'autodérision, avec, ça puisse avoir un petit côté sectaire et excluant. Et puis d'un côté, si on le respecte pas, tout le monde qui nous regarde mal. Enfin bon, je sais pas si c'est ça. Donc effectivement, d'avoir de la fluidité, de l'autodérision, du rire, de pas se prendre trop. On prend la question, mais
ouais, mal. Je lis aussi le chat et je voulais répondre à.
Au sérieux, en fait, moi c'est peut-être comme ça que. Que
je donne la patte et pas forcer, on parlait à l'instant de faire la fermeture éclair aussi avec les personnes racisées. Faut pas tomber dans des réunions avec une situation, allez X, c'est à toi de parler, tu es noir, sourire, bon, c'est ce que dit donne la patte. Non, évidemment, ça fonctionne pas comme ça. Si y a une fermeture éclair, en gros, c'est-à-dire que imaginons qu'il y a un tableau, bah du coup les gens s'inscrivent pour prendre la parole, bah on a une colonne avec les hommes, une colonne avec les femmes, et bah si la colonne avec les femmes est vide, évidemment on va pas forcer les femmes à parler, hein. L'idée, c'est de se dire, on essaye d'alterner autant que faire se peut.
Voilà, c'est les personnes qui lèvent la main et puis bah, voilà, l'animateur essaye d'alterner et pas de donner la parole qu'au mec, qu'à la même personne. Enfin, voilà, c'est un peu peut-être se former, avoir des personnes dans les collectifs qui sont formées en tant qu'animateurs bienveillants, attentifs, mais qui ont quand même de l'autodérision, qui ne vont pas juger, être sévères et être durs envers les personnes, qui peuvent se tromper, qui doivent s'adapter. Et donc ces compétences d'animation, elles sont effectivement assez importantes. Et on n'est pas toujours, on n'a pas toujours des bons animateurs dans les collectifs, donc ça s'apprend aussi.
Ni même dans les émissions, puisque je m'en prends plein à la figure sur mes bêtises en disant New Age égale bisounours. Là, ils sont contents, et je les vois qui se redressent, les invités, c'est extraordinaire. Et Jean Capbien qui dit merci Hélène, c'est comme ça qu'il fallait comprendre ma question, ma remarque. Voilà, donc c'est parfait. Pense sur le bec, très bien. Continuons. Anticiper et gérer les violences internes, page 112. Au-delà de potentiels conflits, les collectifs militants et bénévoles, écrivez-vous, ne sont pas non plus à l'abri de violences commises en interne entre leurs membres. Le sujet est délicat. Lorsque ça arrive, comment faire justice? Là, vous évoquez le collectif RACA, Elsa Deck-Marceau, qu'on avait reçu ici même, qui sort d'ailleurs un livre là à la Fabrique sur un sujet concomitant, on va dire. Mais cette question-là, évidemment, j'ai vu une ou deux remarques dans le chat, elle est essentielle. La question des violences internes, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Comment on peut gérer ça?
Bah déjà, après, il faut faire de la prévention et on dit qu'il y a trois niveaux de prévention, c'est-à-dire prévenir les problèmes au sens propre, c'est-à-dire du coup informer les gens et du coup ça peut passer par des choses très très simples, hein, c'est-à-dire afficher du coup les numéros d'urgence si on est victime de violence, de dire que c'est pas toléré dans le collectif et parfois en parler pour rappeler comment on doit se comporter, hein, les uns avec les autres dans l'organisation. Après, il y a un deuxième niveau de prévention, c'est-à-dire qu'il faut Quand ça arrive, il faut limiter les actes sexistes, par exemple. Et après, il y a un dernier niveau de prévention qui est plutôt de réparer. Et du coup, là, réparer, s'il y a eu des violences sexistes, Elsa Deck-Marceau en parle. Mais il y a aussi évidemment d'autres personnes qui sont spécialisées là-dessus, notamment la défenseuse des droits qui a sorti un peu un manuel, c'est un manuel d'ailleurs, pour comment on fait pour prendre en charge une VSS dans une organisation militante. On recueille la parole des victimes, ensuite on fait une enquête et on protège évidemment la victime et on met aussi la personne mise en cause de côté, et ensuite il faut des sanctions. Voilà. Et donc tout ça, après Hélène en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée c'est de ne pas se retrouver le jour J avec un énorme problème et sans aucune règle pour le régler. Donc c'est pour ça qu'on encourage, et du coup on a interviewé notamment une avocate qui s'appelle Audrey Pinorini, qui explique comment il faut travailler ses statuts, mettre en place un règlement intérieur, quand on est une association, parce que ça peut être vraiment très utile au moment où il y a une crise, ou un conflit, ou une agression.
Vous rapportez ce qu'elle suggère, par exemple le fait de ne pas prévoir de dortoir non mixte lors des séminaires, de ne pas faire de prévention sur les VSS ou l'usage abusif de l'alcool.
Alors VSS, dans le chat, il demande c'est violences sexuelles et sexistes, ou sexistes et sexuelles plutôt.
Voilà, absolument. Et alors évidemment, il y a un exemple massif, c'est celui d'Emmaüs, et vous en parlez. Comment Emmaüs a géré cette question-là?
Ouais, alors Emmaüs, c'est un peu...
Ouais, parce que j'ai cru que tu allais parler de l'abbé Pierre comme ton héros étant petit, que tu l'avais au-dessus de toi, mais non.
Non, alors moi j'ai jamais adoré, comme certains adorent l'abbé Pierre, mais c'est vrai que l'abbé Pierre, c'est une figure quasiment christique dans le mouvement Emmaüs. Il y a des gens chez Emmaüs qui disent que c'est l'équivalent de Dieu, en fait, pour lui. Et c'est vrai que du coup, l'abbé Pierre, c'était un militant qui, en 1954, a lancé un grand appel à la lutte contre la pauvreté, et qui était une figure pendant tout la deuxième partie du XXe siècle, une figure centrale de la lutte contre la pauvreté et contre le mal logement. Et là, récemment, il y a le cabinet EGAE, à la demande d'Emmaüs International, et c'est très important, qui a lancé une enquête. Parce que l'abbé Pierre était accusé de très nombreux crimes, notamment de violence, de viol sur des femmes, mais aussi sur des enfants. C'est très glauque. Il utilisait son argent pour obtenir des services sexuels. Enfin, c'est horrible. L'enquête, le travail qui a été fait par Emmaüs, en gros, ils ont proposé... Donc l'abbé Pierre est mort il y a une dizaine d'années, donc malheureusement, on peut plus le juger. Mais en tout cas, c'est pas trop tard pour essayer de réparer ce qui a été fait, même si ça sera jamais évidemment à la hauteur du mal qui a pu être commis. Et donc, le cabinet EGAE a proposé une ligne d'écoute et de rencontrer, en gros, les personnes qui ont été victimes de l'abbé Pierre. À ces personnes, il a été proposé aussi d'avoir un suivi psy, de rencontrer des psychologues pour parler ça avec des professionnels de la santé mentale. Et actuellement, il y a plusieurs travaux qui sont en cours, donc il y a un travail de réparation. Et ce travail de réparation, il passe par plusieurs choses. Le mouvement Emmaüs, du coup, se prépare à indemniser les victimes financièrement, parce que, en effet, le mouvement Emmaüs a grandi en utilisant l'image de l'abbé Pierre. L'image de l'abbé Pierre était partout, dans les communautés Emmaüs. Il y avait même une fondation, la fondation qui s'appelle la Fondation Abbé Pierre, qui est aujourd'hui la fondation pour le logement défavorisé, qui est une super fondation et qui a des problèmes d'argent à qui il ne faut pas hésiter de la soutenir. Donc il y a une réparation financière. Et après, il y a une seconde réparation qui est peut-être plus symbolique. C'est-à-dire que là, il y a un travail qui est fait par le mouvement de réécriture de l'histoire du mouvement Emmaüs, mais peut-être pas forcément en effaçant la figure de l'abbé Pierre, parce qu'elle est centrale, mais avant Emmaüs, c'était l'abbé Pierre. C'était mélangé. Là, il y a un travail de réécriture de l'histoire. Comment on fait pour raconter cette aventure collective sans que l'abbé Pierre y soit aussi central qu'il était aujourd'hui? Donc, en gros, au début, on dit derrière des héros, il y a toujours des collectifs. Et on pourrait rajouter, il faut se méfier aussi des héros, parce que si jamais ils s'écroulent, en fait, c'est tout le mouvement qui peut s'écrouler avec lui.
Ça dit, lui, il avait une cape.
Oui, il avait...
Ce qui est un élément qui pourrait mettre la puce à l'oreille. C'est le mec qui se prend pour Superman. Mais ce qui est un point important, c'est le fait, tu l'as dit, mais tu l'as dit rapidement, c'est qu'en fait, le scandale Emmaüs est révélé par Emmaüs. C'est-à-dire que... Et donc là, c'est... pour parler des associations ou des collectifs, c'est-à-dire, c'est de dire il faut vraiment prendre en compte ces questions-là et ne pas les mettre sous le tapis. Et la preuve, c'est que la Fondation Abbé Pierre, devenue ce que tu as dit, en paye aujourd'hui les frais. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, c'est devenu la honte absolue, etc. Mais c'est ce courage-là qui est tout à leur honneur, en fait.
Oui, tout à fait. Alors, juste pour... Parce que souvent, en plus, quand on parle de burn-out, souvent, on dit que c'est de la faute des individus, ils sont un petit peu fragiles. Bon, et là, ce que montre bien l'exemple dramatique de l'Abbé Pierre, c'est bien la responsabilité collective. Parce que si l'Abbé Pierre a pu faire tout ce qu'il a fait, c'est bien que certains ont fermé les yeux, et puis le collectif en a tiré des bénéfices hein, de l'image de l'Abbé Pierre, pas de ses crimes. Hein. Enfin,
bien sûr.
Et du coup, cette responsabilité collective, bah, du coup, je trouve que Emmaüs a été extrêmement courageux de faire sortir ça, hein, parce qu'il savait très bien que ça aurait des conséquences, mais en même temps, c'était leur responsabilité morale, politique, hein, et... ouais.
Tu veux ajouter quelque chose, Hélène ? Voilà, non, mais surtout, si on veut, si on lutte et si on s'engage pour un monde meilleur, qui est le cas d'Emmaüs ou de la Fondation pour le logement des défavorisés, c'est d'être exemplaire. Et en fait, à l'image de la société, il y a des violences qui peuvent être faites au sein de ces associations, de ces collectifs qui luttent pour un monde meilleur, parce que la domination, ça existe. En fait, elles sont à l'image de la société, tant qu'on n'aura pas... éradiquer les oppressions, les dominations dans la société, voilà, ça sera à cette image-là. Et si on veut, encore une fois, préfigurer un monde meilleur pour lequel on s'engage, eh ben, c'est bien d'apprendre aussi au sein de son collectif à réparer, à faire justice aussi au sein de ses collectifs, quoi.
Troisième chapitre, c'est celui de la résistance, enfin de résister. Là, on arrive un peu pas loin de la fin de notre entretien. Alors là, c'est résister à l'oppression, j'allais dire militaire, mais enfin policière, judiciaire. Et en exergue de ce troisième chapitre, il y a un militant écologiste, vous ne donnez pas son nom, qu'importe. C'est sa phrase qui compte, c'est de la faute au ministre de l'Intérieur si on est en burn-out.
Oui, parce que, donc en gros, quand on réfléchit au burn-out, encore une fois, on a une approche un peu scientifique. Et du coup, il y a trois niveaux d'analyse. En gros, évidemment, le niveau individuel, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux face à l'épuisement militant, et ça, faut le prendre en compte. Et ensuite, il y a un niveau organisationnel, hein, c'est comment l'organisation du travail militant peut amener les gens à s'épuiser. Et enfin, il y a un troisième niveau macro, on va dire général, c'est comment le contexte aussi épuise les militants. Et c'est sûr que les militants écologistes, mais antiracistes, enfin, bah, sont particulièrement là exposés à l'épuisement parce qu'ils font face à la répression ou simplement même à l'inaction politique. C'est-à-dire que dans l'introduction aussi, on parle beaucoup des mouvements féministes qui sont celles qui ont commencé à parler du burn-out avec le paye ton burn-out militant, avec le collectif féministe contre le cyberharcèlement ou Anaïs Bourdet. Et en gros, ce qui se passe pour ces collectifs qui viennent en aide aux victimes, aux femmes victimes de violences, ce qui se passe, c'est qu'elles s'engagent, elles reçoivent énormément de témoignages, et en même temps, il y a Emmanuel Macron, qui est président de la République, et qui annonce que la cause des femmes est une grande cause nationale. Et en fait, sur le terrain, ce qu'elle voit, c'est qu'il ne se passe rien. Hein. Et donc, l'État a dit que c'est une priorité, sauf qu'il n'y a pas d'argent, les gens ne sont pas formés et les victimes sont toujours laissées à l'abandon. Et du coup, évidemment, ça fait péter un câble de constater ça et de se retrouver face du coup, à beaucoup de misère, au stress vicariant. Quoi.
Le stress vicariant, c'est quand on vit le stress par procuration, quoi.
Oui, parce qu'en fait, c'est des femmes qui vont accueillir la...
traumatique des victimes avec qui on est en contact.
Des paroles, enfin, beaucoup de souffrance, enfin, beaucoup de témoignages de souffrance. Et bien évidemment, enfin, entendre des gens qui souffrent, ça fait aussi souffrir. Voilà, donc pour revenir à ce que tu disais, oui, le contexte épuise. Hein, c'est ce qu'on disait au tout début, c'est comment l'État ou même l'extrême droite aussi va façonner nos engagements et participer à l'épuisement. Et face à ça, encore une fois, depuis très longtemps, il y a des solutions. On a parlé déjà des caisses de grève, et ça, c'est quand même un outil historique du mouvement ouvrier qui est extrêmement important. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, se mettre en grève pour défendre ses droits, bah, c'est nécessaire, sauf que c'est aussi extrêmement stressant parce que ça nous met dans une précarité absolue. Hein. C'est-à-dire que quand on est en grève, on n'a plus de salaire. Alors, Du coup, face à ça, le mouvement ouvrier, les syndicats ont créé les caisses de grève, se sont dit, bah voilà, on va cotiser un petit peu chaque mois pour permettre aux gens qui ont besoin de se mettre en grève de pouvoir le faire sans mettre en danger leur sécurité économique, donc leur foyer, leur famille, etc. Donc ça, c'est une des grandes solutions qui a circulé, parce qu'on voit bien que les caisses de grève, elles sont plus seulement utilisées par le mouvement ouvrier aujourd'hui, mais on a vu au moment des Gilets jaunes aussi, il y avait des caisses de grève, des caisses de solidarité. Et ces caisses de grève, en fait, elles sont utilisées par différents mouvements, pareil aussi pour venir en aide à ceux qui en ont besoin, économiquement en tout cas, à ceux qui en ont besoin.
Et puis ce qui peut être stressant aussi maintenant, c'est d'aller tout simplement manifester, parce qu'il y a de plus en plus de violences policières lors des manifestations. Donc c'est d'avoir sur soi du sérum physiologique ou d'en avoir aussi pour les autres. C'est de savoir, connaître ses droits, avoir des numéros d'avocat aussi au cas où on est pris... par surprise, interpellé alors qu'on n'a rien fait de violent ou de spécial. Et donc voilà, il y a aussi de
et
plus en plus...
Et on rappelle, pas de téléphone portable.
Voilà, des conseils comme ça qui, quand on n'est pas des militants aguerris et qu'on va manifester en famille, on n'a pas forcément du tout ces réflexes-là. C'est un peu triste d'en venir là, mais...
Sur le téléphone, en plus, je pense qu'on donne des... Enfin, encore une fois, ça, tout dépend du contexte, parce que le téléphone, en effet, si on fait une manifestation et que, bon, disons qu'on a des pratiques proches de l'illégalité, voilà, c'est vrai que c'est sûr, vaut mieux pas avoir son téléphone portable parce que ça peut être retourné contre vous.
Bien sûr.
Par contre, si vous êtes dans une manifestation et que vous avez votre téléphone portable et que vous constatez des agissements, des violences policières par exemple, le téléphone portable
est une arme.
Est une arme. Ça
bien
permet
sûr.
De documenter des violences. Donc, voilà. Donc il faut parfois prendre son téléphone quand même pour documenter les violences policières.
Alors à propos du sérum physiologique dont tu parlais, Hélène, ça amène au chapitre sur les street medics. Et là aussi, même si on l'a défloré tout à l'heure, il y a une histoire du soin dans la manifestation. Donc parce que c'est vrai que ces dernières années, en France, singulièrement, notamment depuis la loi travail, les gilets jaunes, n'en parlons pas, etc. Il y a eu cette violence, tu parlais de Sainte-Soline tout à l'heure, cette violence qui s'est abattue et qui, pour les jeunes générations, semble nouvelle. En réalité, elle ne l'est pas. Et les street medics, avant, ils avaient un autre nom, mais ça existait déjà. Est-ce que vous pouvez en parler?
C'est les ambulancières de la commune.
Oui, c'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Oui, c'est-à-dire qu'évidemment, dans tout mouvement militant, même ancien, il y avait des gens qui venaient en aide aux personnes qui étaient blessées. Et du coup, il y a une figure iconique hein, qui est Louise Michel, voilà, qui notamment, au moment de la commune, venait en aide aux personnes qui étaient blessées. Et ça a été remis au goût du jour, notamment avec les manifestations de 1999 à Seattle, contre l'OMC, enfin, je crois que ça s'appelait le GATT à l'époque, donc l'Organisation Mondiale du Commerce. C'est vrai que le mouvement intermondialiste, à partir de cette époque-là, a été confronté à de la répression policière extrêmement intense. Et on a vu apparaître donc, ce qui s'appelle des street medics, hein, donc des médecins des rues. Donc c'est des gens qui ne sont pas forcément médecins, hein, même si on retrouve dedans des professionnels de la santé, mais en majorité, ça ne l'est pas. Et c'est des gens qui, oui, ils ont des sacs à dos, ils sont bien équipés, ils ont des casques, ils ont des protections sur tout leur corps. Et dans leur sac, du coup, on retrouve du sérum phi, on retrouve des compresses si jamais il y a des saignements. Et en fait, c'est des gens qui vont venir en aide aux personnes qui sont blessées ou même qui peuvent être traumatisées. Parce que voilà, c'est aussi certains sont aussi formés aux premiers soins psychologiques. Hein, c'est vrai que donc du coup, essayer de prendre en charge une personne hein, qui a vu des choses horribles ou qui a vécu des choses horribles.
Oui, pardon.
Non, Hélène. J'allais dire, il y a aussi des exemples, par exemple dans le mouvement des suffragettes, où il y avait une grande solidarité, entraide entre les femmes qui étaient victimes de fortes violences policières, voire même d'actes de torture, et qui, voilà, il y avait des alors je ne sais pas si c'était des professionnels du soin, mais des infirmières, oui, voilà, qui prenaient soin des victimes et qui s'entraidaient comme ça aussi pour garder les enfants, pour se reloger quand... Elles perdaient leur foyer à cause de leur engagement. Enfin voilà, le mouvement des suffragettes qui a duré quand même pas mal d'années absolument. En Angleterre, je crois 40 ans, enfin, c'était très long. Il y a eu toute une culture de l'entraide, du soin qui s'est développée au sein de ce mouvement-là.
Et qui vous intéresse aussi, me semble-t-il, sur le fait qu'il jouait sur deux tableaux, c'est-à-dire le militantisme institutionnel, jouant le jeu des institutions. Et puis, c'était des casseuses, hein. Elles cassaient les vitrines. Ça, elles en ont fait pleurer les familles de vitrines. Hein. Ça, faut quand même le rappeler.
Oui, c'est sûr que les suffragettes, elles ont utilisé aussi ce qu'on pourrait qualifier d'action violente. Hein. Enfin, elles n'avaient pas froid aux yeux, très, très clairement. Et elles allaient parfois même se taper avec les représentants de l'ordre de l'époque. Et ce qui est intéressant aussi avec les suffragettes, c'est qu'elles ont participé à importer du coup un art martial, le jujitsu. C'est-à-dire que donc, c'est un art martial qui, c'est pas que ça nécessite pas de force, mais disons que c'est un art martial qui permet de retourner la force de l'adversaire. Voilà, un peu comme le judo. Et du coup, les suffragettes se sont formées à cet art martial et du coup à l'autodéfense. Hein, elles ont appris à se défendre aussi elles-mêmes contre les agressions.
Le Salva Graf nous dit dans le chat, on a un peu perdu cette entraide actuellement, mais ça revient. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'il y a une perte d'entraide dans les mouvements engagé.
Oui et non. En tout cas, c'est vrai que le sujet, notamment par ce terme de burn-out militant, qu'on n'a pas inventé, mais qu'on a repris au mouvement, notamment féministe et écologiste, hein, qui en parle beaucoup, du coup, il y a ce renouveau finalement de l'entraide, et en tout cas, ça devient un sujet en tant que tel dans les organisations. Mais a priori, l'entraide n'a jamais disparu des mouvements militants. Du coup, là, on parlait tout à l'heure des suffragettes qui font de l'autodéfense. Il y a une autre pratique dont on parle dans le livre, c'est celui des services d'ordre. Voilà aussi, c'est comment on fait pour protéger les manifestants, notre groupe, contre les attaques de la police, mais aussi très souvent de l'extrême droite. Et ça, les services d'ordre, donc ça a été inventé par des partis politiques et les syndicats il y a très longtemps, mais c'est des pratiques qui persistent encore aujourd'hui. Hein. Le NPA a son service d'ordre, la CGT a encore son service d'ordre, et on a aussi les collectifs Antifa aussi qui font ce rôle-là de protection des manifestations.
D'autodéfense.
Ouais, d'autodéfense.
Le système de l'autodéfense. J'ai vu passer dans le chat votre livre, voilà, c'est Serena. En tant que militante, je vois que le livre est extrêmement complet. Merci pour ce travail. Eh bien, je peux le dire, il est extrêmement complet. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai été étonné qu'on puisse faire autant de pages finalement sur cette connaissance, sur ces pratiques. Ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer quand même. Est-ce que vous-même, vous avez été surpris par ça dans vos recherches ou dans votre...
On aurait pu en faire encore plus, en fait. Là, je vois dans le chat quelqu'un qui dit, en fait, on aurait besoin d'un site où on pourrait partager toutes ces bonnes pratiques. Il y en a plein dont on ne parle pas dans le livre. Ce qui m'a étonné, c'est à un moment, Simon avait fait un appel à témoignage sur LinkedIn et il y a eu énormément de réponses. Et donc, moi, c'est ça qui m'a plutôt étonné, c'est le fait qu'il y ait plein de solutions, plein de pratiques à mettre en avant. Ça, c'était pas étonnant et il y en a plein qui sont pas dans le livre. C'est le fait que, en fait, ça touche beaucoup de monde, ce burn-out militant. C'est plus ça qui était un peu un triste constat.
Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé au début, mais c'est vrai que donc ça a une réalité sociale évidente. Après, on a du mal à le chiffrer, hein, cette sorte de burn-out. Mais du coup, les gens qui sont intéressés à certains mouvements, des droits humains ou encore à ACT UP, ils disent que l'épuisement, c'est un facteur de désengagement qui est hyper important. Et c'est pour ça que les gens se désengagent. Voilà, chez ACT UP, Olivier Filleul, il dit que c'est à peu près 50% des gens. Et après, le burn-out, c'est-à-dire l'épuisement complet, ça concernerait 10% des gens. Donc il y a une réalité sociale qui est là. Et du coup, si on veut que nos organisations elles grossissent et qu'elles restent fortes, en fait, on est obligé de s'en préoccuper, quoi.
On arrive au terme de notre conversation, de notre causerie. Il faut que je retrouve ce terme de causerie. Avec deux questions rituelles. La première, qui n'a rien à voir, enfin, encore que c'est à vous de choisir, avec ce dont on vient de parler, c'est est-ce que vous avez l'une et l'autre une recommandation culturelle ? Ça va être un bouquin, un disque, un film, je ne sais quoi, une recette de cuisine, qu'importe, à partager. Ça peut être un vieux machin, comme ça peut être tout récent. À vous.
Alors moi, c'est juste là, une recommandation culturelle, c'est de rire. Et là, ça me fait rire toutes les réactions sur LinkedIn, effectivement. J'avoue que c'était pas forcément hyper raccord avec l'émission et le milieu. J'imagine que vous communiquez pas beaucoup sur LinkedIn ici.
Non.
Mais il se trouve que les chercheurs, de plus en plus, on est un peu sur LinkedIn. Donc on a eu des témoignages de milieux assez différents en allant sur différents réseaux sociaux. Et du coup, oui, pour rire. Alors moi, c'est une recommandation. Est-ce qu'il faut que ça soit en lien avec Burnout Militant ou pas du tout ?
Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors il y a parce que dans le bouquin, il y a des chansons.
Oui, on a fait une playlist.
Vous avez fait une playlist. Ça peut être une des chansons. Enfin, c'est comme vous voulez, hein.
Ouais, dans le livre, on a fait une playlist avec 10 chansons. Il y a 10 chapitres dans le livre. On a mis 10 chansons. Mais du coup, peut-être qu'on peut partager cette playlist. Non, mais en gros, on a mis Assa Siempre, Comandante, Le Chant des Partisans, de Motiver, Mourir pour des idées de Georges Brassens. Bon, on a mis plein de chansons, L'Hymne des Femmes, On lâche rien. Ouais. On a essayé de mettre et aussi une chanson, Burnout Militant d'Estelle Menu, qui est une chanson qui est assez rigolote, on peut le dire, voilà, avec un clip. Voilà, donc du coup, on a déjà ce partage des propositions culturelles, voilà, pour écouter et animer les soirées militantes.
Et puis, par rapport au rire, moi, je sais que un des trucs qui me fait tenir, c'est d'écouter la dernière tous les dimanches soirs sur Radio Nova. Par rapport à la facho-anxiété ambiante, ça fait quand même pas mal de bien. Et je voyais pas mal de personnes au début qui parlaient de l'actualité, qui même sans militer sur le terrain, rien que regarder de l'actualité, ça faisait déprimer. Bah, ce qu'on recommande, en fait, c'est aussi de s'engager parce que c'est prouvé, agir, ça permet de lutter contre l'anxiété, contre l'éco-anxiété, contre la facho-anxiété. Donc, s'engager, militer, c'est aussi une partie de la solution pour ne pas s'épuiser. Et c'est là le paradoxe, peut-être.
Ultime question, qu'est-ce que nous avons fait pendant 1h24 ?
Une émission de radio, un podcast sur le burn-out militant, il me semble que c'est
ça. On a parcouru le livre qui avait été super bien lu par vous et du coup on a échangé autour de ce qu'on essaye de partager dans ce livre et à interagir. Moi c'était la première fois que je faisais un stream avec des réponses, à essayer de répondre à une communauté qui échange en ligne. Je suis peut-être un peu une boumeuse.
Pas du tout.
Je ne sais pas. J'ai pas l'habitude de faire ça et je trouve ça très chouette.
Dites-moi la vérité. Interactif. Vous ne trouvez pas ça épuisant ? Le chat ? Non, il faut leur dire. C'est pour ça qu'on fait au poste. C'est pour qu'il y ait le chat, pour qu'il y ait de l'intelligence collective, de la relance.
Puis c'était plutôt bienveillant. Enfin, peut-être que c'est modéré et que tous les.
C'est très modéré. on a dû. Enfin, votre éditeur nous a prévenu. Il faut vraiment modérer. Donc là, on a mis. Non, c'est pas vrai. C'est modéré par Eurial depuis toujours. Mais je crois que je sais pas. Eurial va nous dire si elle a eu beaucoup de travail. Mais je ne crois pas. Tu voulais le mot de la fin, peut-être.
Oui, non, le mot de la fin, mais c'est la même chose qu'Hélène. Hein, c'est important de s'engager pour changer le monde. Donc, il ne faut pas oublier de prendre soin de nous et de nos luttes. Et du coup, pour finir de répondre à ta question, je pense qu'on a participé à diffuser cette culture militante. Et encore une fois, c'est quand même sans dire qu'il faut absolument adopter chaque technique dont on a parlé dans le livre. En tout cas, c'est bien d'y réfléchir pour s'améliorer. On peut faire mieux.
Merci beaucoup et
merci
à bientôt.
Merci beaucoup.
Mes amis, nous sommes sur opposte.fr. Abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça. C'est artisanal, on est entre nous. C'est opposte, opposte.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement. Non, abonnez-vous à Opposte.
J'encourage, faites un don à Opposte. Ah non, c'est là la caméra.
Abonnez-vous Opposte.
Et faites des dons à Opposte. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à Opposte. Il faut donner
de
l'argent
pour
que
ça existe.
Amis du café, amis de la police, abonnez-vous Opposte.fr. Opposte.fr. Abonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer le récit, c'est important. Ça passe par quoi ? Ça passe par muscler les médias indépendants. Soutenir Opposte.
Abonnez-vous !
Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à Opposte et à Mediapart, ou deux.
Abonnez-vous !
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Opposte.fr, il n'y a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là. Bompard soutient Opposte, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas ? Faites un don à Au Poste. Il ne faut pas que ce soit qui reste. Donc je disais, pardon, il faut bien que vous provoquiez du débat, il faut provoquer du sujet. Pour provoquer du sujet, il faut créer de la conflictualité.
Mais comment je vais rester indépendant si Bompard, il demande aux gens de faire un don?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci.
Et abonnez-vous.
Et abonnez-vous.
Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.
Bravo. Bravo. Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.